Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bamako a passé une mauvaise nuit vendredi. Pour la première fois, les terroristes ont frappé dans la capitale. La menace terroriste, on en avait conscience, mais depuis vendredi, cette menace est devenue plus qu'une réalité. Évidemment, cela n'est pas sans conséquences. D'ores et déjà, on se pose beaucoup de questions. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi c'est maintenant que cela est arrivé? Peut-on parler de recrudescence de la violence avec l'attaque subie par un camp de la l'aménagement dimanche et le lynchage de deux personnes accusées de tenter de poser des bombes, des explosifs à Gaoum. Tout cela ne compromet-il pas le processus de négociation en cours? Beaucoup de questions qui attendent donc leurs réponses. Pour tenter justement d'avoir quelques éléments de réponse à ces interrogations, nous avons trois invités dans ce studio. Ousmane Cornéo, il est spécialiste en sécurité du Sahel. Lamfia Sinaba, il est journaliste. Et Moussa Camara, le général Moussa Camara, qui est directeur régional de la police. Le Grand Dialogue de ce lundi vous est présenté par Seydou Fomba, auditrice, auditeur. Bienvenue. Alors, ce week-end n'a pas du tout été tranquille au Mali. 5 morts dans un attentat à Bamako, 3 tués dans l'attaque d'un camp de l'aménagement à Kidal, 2 personnes lynchées à Gao pour, dit-on, avoir tenté de poser des explosifs non loin d'un poste de police au Mali. Le week-end a été sanglant. Nous allons commencer par nous intéresser à l'attaque de la nuit du vendredi. Alors, nous avons d'ailleurs un invité qui était sur place, c'est Lamfia Sinaba. Alors, Lamfia Sinaba, ce que vous avez vu là-bas, c'était horrible?
Oui, très très horrible, franchement. Parce que dans le cadre de l'exercice de mon métier, je pense que c'est une première fois que je sois sur un lieu d'une fusillade. Quand je suis venu, c'était la désolation. Parce que j'ai vu un blanc qui a été tué, qui était à côté. Et on n'a pas procédé à la vérification de ces pièces en ma présence. J'ai aussi vu des ambulances, 3 ambulances qui ont quitté en ma présence, qui avaient des corps. Mais avant de me rendre également sur les lieux, je suis d'abord passé par le service des urgences de Gabriel Touré parce que c'est sur mon chemin. Et là-bas, j'ai vu des témoins sur place qui m'ont dit qu'il y a un gardien qui est mort. Mais des sources hospitalières, j'ai appris que déjà il y avait 2 morts avant que je ne me rende sur les lieux de l'attaque. Voilà.
Alors, ce qui est arrivé donc au restaurant La Terrasse, c'est horrible. Après cette attaque terroriste, les Bamakois ne devraient-ils pas avoir désormais peur? Nous allons poser la question en premier lieu à Moussa Camara, qui est le directeur régional de la police.
Je vous remercie pour l'émission, pour l'occasion que vous nous donnez, afin d'expliquer un peu à la population ce qui s'est passé effectivement. Effectivement, dans la nuit du 6 au 7, on m'a appelé vers 1h pour me dire qu'il y a des coups de feu sur la terrasse. Mais ce n'était pas précisé, je ne savais pas si c'était du genre comme braquage. Généralement, les braqueurs maintenant sont armés. On savait penser que c'était un cas isolé du genre. Mais on m'a dit non, il y a explosion de grenade. Alors, j'ai dit maintenant c'est sérieux. Donc immédiatement, j'ai enfilé ma robe, je suis allé. Ensuite, j'ai fait appel à toutes les forces, comme d'habitude. Nous sommes retrouvés là-bas. Avant d'arriver, j'avais déjà instruit à ma salle de trafic, à la salle de trafic du département, qui coordonne toutes les actions, d'appeler la protection civile, éventuellement de prévoir s'il y avait des cas d'incendie, tout, la protection civile devait prévoir tout ça, les cas d'incendie, éventuellement enlever les blessés et les éventuels cas de décès. Donc nous sommes allés, j'ai trouvé qu'il y avait déjà des ambulances, il y avait un monde fou qu'il fallait dégager, mais l'effectif n'étant pas encore complet, il fallait attendre que les autres viennent, les autres renforts sont arrivés, c'est en ce sens qu'on a essayé maintenant de faire partir les gens et maintenant de procéder à l'enlèvement des corps.
Alors, nous allons maintenant donner la parole à Ousmane Cornéo, spécialiste en sécurité au Sahel.
Oui, merci beaucoup. Moi, c'est le contraire qui m'aurait étonné. En matière de négociation, il faut s'attendre à des choses comme ça. Quand vous négociez, il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a ce qu'on a des acteurs qui ont intérêt et qui veulent que ça réussisse. Et il y a des acteurs qui n'ont aucun intérêt que ça réussisse. Et qui vont réagir dès qu'ils vont sentir qu'il y a un accord qui se profile à l'horizon. Et depuis que les négociations ont commencé à Alger, nous, en tant qu'observateurs, on suit. Chaque fois qu'il y a une tendance d'accord, on sent sur le pays qu'il y a une recrudescence d'insécurité. Pour dire, bah, écoutez, vous êtes en train de gâter nos affaires. Donc, dès que l'accord a été paraphé à Alger, moi, je m'attendais d'un moment à l'autre qu'il se manifeste. Et quand disons qu'ils se sont manifestés, j'ai dit à mes collègues, voilà ce que je vous disais. Et on doit prendre encore garde. Ce n'est pas terminé. Ils vont tenter autant qu'ils peuvent de boycotter, de saboter et de mettre à mal l'accord qui est en train de se profiler. Ce n'est pas forcément ceux qui sont en train de négocier. Hein. C'est des gens, des terroristes qui n'ont pas envie qu'il y ait de solution. Et ils se sont préparés. Ils se sont préparés, donc le gouvernement doit prendre des dispositions sécuritaires beaucoup plus rudes. Et les populations doivent contribuer, participer, dans la mesure où ces populations, ces terroristes sont entre nous. Ce n'est pas la police, ce n'est pas écrit sur le nom le front de quelqu'un qui est terroriste. Nous sommes tous maliens. Mais moi, ça ne m'a pas étonné. Quand ça attaque, on m'a dit, j'ai dit que voilà, c'est un scénario que j'avais prévu et je l'ai dit sur ce débat-là. Qu'en fait, dès qu'il y aura un semblant d'accord, attention que le gouvernement prenne des dispositions.
Lanfia Sinava, vous êtes journaliste. Vous pensez qu'il y a également effectivement un lien entre ce qui est arrivé, cet attentat, et le processus en cours?
Bon, comme M. Cornion l'a dit, je pense bien que c'est. Il faut toujours envisager dans ce cadre-là. Il y a des gens qui ont un agenda, d'autres n'en ont pas. Donc, il y a toujours cette tendance à vouloir saboter, à remettre en cause. Parce qu'il ne faut pas oublier que la situation du Mali, c'est un cas, je dirais, particulier compte tenu de l'aspect géostratégique du nord de notre pays. Donc, cela fait que beaucoup de gens n'ont pas intérêt à ce que la situation soit stabilisée. Donc, il revient à nos autorités de doubler de vigilance.
On sait qu'une enquête a été ouverte. Alors, sur ce plan, il peut y avoir effectivement des rumeurs, mais il semblerait qu'on ait arrêté quelqu'un aujourd'hui. Où en est l'enquête? Nous posons la question au directeur régional de la police.
Bon, par rapport à l'enquête, nous sommes un service qui relève d'une autorité militaire, d'une autorité hiérarchique. Nous avons des instructions par rapport à ça. La seule autorité habilitée à se prononcer par rapport à l'enquête, ça c'est le procureur de la commune 6.
Alors, vous n'avez pas la latitude de vous prononcer sur ce genre.
Voilà, c'est ça.
OK. On va donc continuer. Êtes-vous d'accord avec cet avis qui dit que la garde qui était là depuis 2012 est petit à petit tombée, ce qui exposerait à en croire les auteurs de cet avis? La capitale a-t-on vraiment un peu baissé la garde? Je pose la question au directeur régional de la police toujours.
Bon, je pense qu'on n'a pas baissé la garde. En fait, les autorités ont toujours à cœur la sécurité de la population. C'est un droit constitutionnel. Mais les Maliens, je crois que les Maliens ont trop compris la démocratie. Ils pensent qu'ils n'ont que des droits et pas des devoirs. Notre problème, c'est surtout ça. Sinon, dans le temps, il y avait toujours des gens, des policiers qui allaient dans ces bars. Mais ils ne veulent pas avoir les porteurs d'uniforme au niveau des salles, les salles de cinéma, les salles les bars. Personne ne veut le voir parce que ça fait fuir leurs clients.
Ah, mais ils ne comprennent pas que c'est pour la
sécurité. Quand on leur explique, lorsqu'on m'a nommé directeur régional, j'ai demandé à tous mes commissaires de prendre attention avec tous ces services-là. Ils les ont convoqués chez eux. Ils leur ont dit, bon, le nouveau directeur a dit, il faut autrement qu'on collabore ensemble. La sécurité, sans la population, ne pourra jamais être réussie. Il faut qu'on le comprenne. Il faut que la population comprenne que sans leur collaboration, jamais, jamais, la sécurité n'est pas. Même dans les pays développés comme les États-Unis, c'est la population qui les aide. Il y a des gens qui passent toute la journée à dormir, des gens qui ont tout, ils ont des villages. Mais dénoncez-les. Mais chez nous, on pense que c'est contraire à notre culture. Nous pensons que c'est de la délation. Mais non, c'est pas. Il faut que la population participe à sa sécurisation. On n'a pas le choix.
Je crois qu'il y a eu une déclaration du ministre allant dans ce sens, sollicitant donc la population pour qu'elle soutienne l'effort de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ousmane Kone Okou, qui êtes spécialiste en sécurité au Sahel?
Moi, je crois que ce n'est pas maintenant qu'il faut le dire. Ça s'imposait dès qu'on a commencé les négociations. Et nous sommes autant intelligents qu'eux. Hein. Ce n'est pas en un seul jour qu'ils sont rentrés à Bamako. Dès qu'on a commencé à négocier, eux aussi ont commencé à mettre leur stratégie en marche. L'instruction, les recommandations devaient être données à toutes les populations. De veiller à tout mouvement, à toute personne suspecte. Et de collaborer avec la police. Si vous voyez quelqu'un ou des mouvements suspects dans votre quartier, informez la police, pour que la police, les forces armées de sécurité, pour qu'ils en sachent que c'est quelque chose. Les forces de sécurité, ils ne sont pas obligés d'être en tenue. Un exemple, moi, j'étais avec mon chauffeur il y a 2 semaines et on a fait un accident. Quand on a fait un accident, les 5 personnes qui sont arrivées, j'ai écouté, il y a 3 qui se sont présentés comme étant de la police et ils étaient en tenue civile. Bon, j'ai demandé à ceux qui se présentent, il ne s'agit pas de dire seulement que je suis de la police. Expliquez-moi, prouvez-moi que vous êtes la police. Et effectivement, ils étaient tous de la police. Parce que c'était un coin qui était un peu obscur. Bon, c'était un coin un peu dangereux. Malheureusement, dans l'obscurité, il y a une Jakarta qui venait sans phare et qui est venue rentrer là-dedans. Il est blessé, sa Jakarta est cassée. Bon, on cherche à gérer. Mais automatiquement, j'ai vu 3, 4, 5 personnes sortir de l'obscurité. Et les 3 se sont présentés pour dire qu'ils sont de la police. J'ai vérifié, ils sont de la police. Donc, les gens croient que les gens ne sont pas sur le terrain. Même s'ils ne sont pas en tenue, je crois qu'ils sont sur le terrain. Et les populations doivent collaborer. Cette sécurité-là, aujourd'hui, avec la nouvelle forme de menace, il n'y a que la collaboration des populations qui permettent de venir à bout. Ce n'est pas des hommes en tenue. On doit signaler tout mouvement suspect, tout étranger dont les actes et les mouvements sont suspects. Il y a un numéro vert. Vous appelez pour dire, attention, moi, il y a des gens qui sont là, qui. Et là, maintenant, ils vont les vérifier. Et il va de la sécurité de tout le monde. Il va de la sécurité de tout le monde, à partir d'aujourd'hui.
Lamphia Sinaba, vous êtes journaliste. Vous pensez que la population peut jouer un rôle important dans ce genre de situation?
Oh, effectivement, en dénonçant, mais comme le directeur l'a dit tantôt, nous sommes dans un pays là où on estime que dénoncer son voisin, c'est quelque chose qui n'est pas bien séant. Mais la situation actuelle du Mali demande cela. Quelque part aussi, je pense que les communicateurs ont un rôle à jouer dans ce sens, afin qu'il y ait ce changement de comportement. Mais le problème, si vous permettez, je voudrais le poser d'une autre manière. Le directeur général a tantôt parlé des efforts que les portiers fournissent, mais quelque part, ces agents se plaignent aussi. Par exemple, moi, je suis présentement sur un dossier. Je n'ai pas encore fini l'enquête, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ça ne va pas en matière de dotation. Pour sortir aujourd'hui, faire une patrouille, ça pose un sérieux problème. Maintenant, il faut se poser la question, le problème, il se situe à quel niveau? Est-ce que la direction générale de la police reçoit les dotations? Si oui, pourquoi elle ne donne pas aux éléments sur le terrain? Une autre question, est-ce que la direction générale de la police reçoit les dotations? Si elle ne reçoit pas, pourquoi? Voilà des questions qui méritent d'être posées parce que ça pose vraiment aujourd'hui un sérieux problème.
Voilà. Je crois que nous aurons l'occasion d'entendre le directeur général de la police se prononcer sur cette situation. Alors, juste le temps d'observer une courte pause puisque dans quelques dizaines de secondes, il sera 18h30.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, Moussa Camara, je rappelle aux auditeurs que vous êtes le directeur régional de la police. Vous venez d'entendre l'homme de la presse, l'observateur, qui dit que la police fait des efforts, mais qu'il y a des choses peut-être à revoir, puisqu'il peut se poser souvent des problèmes de dotation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon. En fait, il y a une dotation. Hein. La dotation au niveau du département, au niveau de la direction, au niveau de la direction régionale, chaque soir, je ne peux pas dépasser 10 litres par commissariat. J'ai 15 commissariats.
Parce que vous permettez, vous ne pouvez pas réclamer parce que 10 litres par commissariat, c'est vraiment peu.
Bon, là vous savez, ce n'est pas la police seulement qui est la sécurité. Oui. Il y a les autres forces de sécurité. L'État fait tout ce qu'il peut pour nous mettre dans les conditions. Nous demandons toujours plus. Nous avons demandé, même maintenant, on a demandé, bon, vraiment, vu l'urgence, il faut tout le monde qu'il y ait des patrouilles nocturnes et des patrouilles diurnes maintenant. Ça a été instruit par la hiérarchie. On ne pouvait pas le faire chaque fois parce qu'il y avait un problème de carburant. Maintenant, ils ont toujours donné, ils ont donné ce carburant-là. Ça fait 10 litres, 10 litres, ça fait 20 litres. Durée, les patrouilles doivent fonctionner et le jour et la nuit. Donc nous, c'est... Sinon, il y a vraiment des problèmes. Le problème, c'est le problème d'effectifs qui est en train d'être géré. Il y a le problème d'équipement qui est en train d'être géré. Parce que moi, quand mes gens sortent, ils n'avaient pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Ceux qui les ont attaqués, les deux. Sinon, mes gens, la patrouille a croisé ces gens. La patrouille a croisé ces gens.
Ils ont tiré sur eux.
Ils ont tiré sur eux. Ils n'avaient pas de casque, ils n'avaient pas de gilet pare-balles. Bon, tout ça, là, c'est des... Ça, mais
justement, monsieur le directeur, est-ce qu'il n'y a pas des enseignements qu'il faut tirer à partir de là?
C'est ce que... Mais la direction, le département, déjà, a pris la disposition pour ça. Après la réunion avec les plusieurs autorités, je crois que des dispositions ont été prises pour que ces équipements-là soient donnés, soient acquis pour la force de sécurité. Bon. En fait, je crois qu'on va tout mettre en œuvre, ils vont tout mettre en œuvre pour mettre quand même les gens dans les conditions minimum de sécurité pour les agents d'abord. Il faut vraiment que les gens soient d'abord en sécurité. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Ousmane Corneos, vous êtes spécialiste en sécurité du Sahel. Dites-nous, vous pensez que les Maliens doivent faire des efforts pour que les forces de sécurité soient adaptées à la situation, soient dans une situation qui leur permet de mieux faire face à la situation?
Oui, je suis de ceux qui ont vraiment fait du lobbying pour qu'on adopte la loi de programmation militaire. Quand la loi de programmation militaire avait été annoncée pour 517 milliards, je suis de ceux qui ont dit que ça ne signifiait rien pour le besoin actuel de la défense et la sécurité du Mali. Et j'étais heureux qu'on passe de 517 milliards à 1200 et quelques milliards. Et je ne pense pas que les gens ne doivent pas penser seulement que c'est le gouvernement qui doit financer la sécurité. La sécurité, c'est tout le monde. Je donne un exemple. Moi, j'ai travaillé au Tchad, en tant que fonctionnaire international. Pendant 10 ans, pour que les forces de sécurité et de défense du Tchad soient équipées et qu'ils viennent nous aider, chaque Tchadien salarié a souscrit pour un demi-salaire pendant 10 ans pour pouvoir aider les forces armées et de sécurité à s'occuper. Nous les avons vus ici. Le Tchad n'est pas plus développé que le Mali, mais ils ont anticipé. Il faut qu'on anticipe. Je crois que même que la loi d'orientation de progression militaire qui a été votée, si on la met en œuvre, espérons qu'il ne soit pas trop tard par rapport à la situation, je crois que d'ici 5 ans, on va relever le défi. Mais aujourd'hui, l'enjeu, le défi est énorme. Il faut vraiment que nous aidons nos forces de sécurité. Sans moyens, ils ne peuvent rien. Il faut qu'ils assurent leur propre sécurité d'abord avant de pouvoir assurer la sécurité des autres. Or, moi, en l'état que je vois, ils ne sont même pas capables d'assurer leur propre sécurité. Comment des bandits à rencontrer une patrouille policière, c'est eux qui les tirent dessus et qui les tuent. C'est au contraire qu'on s'attendait. Que ça, ce sont des bandits qui c'est eux qui arrivent à les annexer. Mais à la limite, c'est eux qui sont tués. Ça fait honte.
Mais à ce niveau...
Lafia, Sinabal, qui est journaliste, oui.
Oui, je voudrais, comment dirais-je, interpeller un tout petit peu M. Corneos. Vous, en tant qu'expert, vous avez vécu cette expérience au Tchad à votre retour au Berkay. Quel a été votre apport en termes de plaidoyer auprès des autorités?
Bon, je ne peux que parler. Je suis civil, je ne suis pas militaire.
Je l'ai dit. De contribuer à moitié, que chaque salarié contribue à moitié pour pouvoir soutenir l'armée, les forces de sécurité.
Mais est-ce que ce genre de démarche peut aboutir sans, au préalable, sensibiliser les gens?
Oui, la sensibilisation, peux faire en tant qu'expert, c'est au cours de toutes les conférences, de toutes les réunions, de dire attention, la démocratie ne peut être véritable que si elle a une armée forte, quand elle a la force de sécurité forte. Or, nos amis du politique ont cru le contraire, croyant que la démocratie, c'est le développement. Depuis 1990 jusqu'à maintenant, ça fait plus de 20 ans, nous n'avons pas voté une seule loi de programmation militaire. On n'a pas acheté un seul armement. On a acheté des équipements, mais pas des armements. Depuis 1990. Imaginez, nous, en tant que civils, nous pouvons que, au cours des réunions interpellées, et on a interpellé, Il a fallu que nous soyons mis dos au mur pour qu'on comprenne que l'armée, les forces de sécurité ont besoin aujourd'hui d'armement et d'équipement pour seulement assurer leur propre sécurité afin d'assurer la sécurité des autres. Tout le monde doit s'y mettre.
Moussa Camara, directeur régional de la police, oui.
Bon, moi, je pense que ce qu'il a dit là, c'est vrai. Vous savez, il y a tellement d'associations au Mali, il y a tellement de partis politiques au Mali. Si au cours de chaque réunion, on prend 5 poules de gens, vraiment, ils font seulement le comportement et de mentalité, ce pays-là va avancer. Mais ce qui est certain, leur demander, il faut vraiment que vous contribuiez à votre propre sécurité. Tant qu'ils ne contribueront pas à ça, le problème va demeurer. Le problème va demeurer. Les forces de sécurité font ce qu'elles peuvent faire, mais à l'impossible, ils l'ont tenu. Ce cas, c'était un cas vraiment regrettable. C'était un cas que nous avons regretté et vraiment qui nous a vraiment surpris, qui ne nous a pas beaucoup surpris, disons, comme on le dit. Parce que, vous savez, comme M. Kono l'a dit, il fallait s'attendre à ça. C'est une question de logique. C'est une question de logique. Il y a des gens qui se plaisent dans ça. Donc, on a pris toutes les dispositions. Tous les services de renseignement sont à cheval sur ça. Tous les services de renseignement. Toutes les BR de la gendarmerie, de la garde, de la police sont sur ça. Mais...
Moi, à chaque fois que je voyais un cortège passer, j'ai dit, voilà des malheureux qui passent. Ils ne savent pas ce qui les attend.
Oui.
Parce qu'en cette période, ce n'est pas la période des fêtes.
Alors, dans tous les cas, je crois qu'il y a des raisons de s'inquiéter, d'autant plus que peu avant cette attaque, une importante quantité de munitions, armes à feu, explosifs ont été saisies non loin de la capitale. La présence d'exemplaires du courant fait penser à des djihadistes. C'est une découverte qui n'est quand même pas anodine, monsieur le directeur régional.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là encore, ça prouve à suffisance que la population n'aide pas. Ces gens-là ne sont pas tombés du ciel. Ils se sont installés ici. On a trouvé ils préparaient là-bas. Parce qu'il y avait tout. Tout un arsenal comme ça, là, qu'on arrive à déposer, ces gens qui vivent là-bas, qui arrivent à disparaître dans la nature. C'est parce que la population qui est à côté n'a pas collaboré. C'est ce qu'il faut, nous. C'est ce changement de comportement, de mentalité que nous demandons. Parce que s'ils avaient collaboré, ils auraient dit, quelqu'un serait là-bas pour dire à un policier ou bien un gendarme, un garde ou bien... Attention, j'ai vu des gens là-bas, les étrangers. Ce matin, tout près, il y a quelqu'un qui est venu, qui est allé partir dans une boutique, qui a dit, il veut acheter des tenues militaires. 300 tenues militaires. Le boutique a dit, bon, attendez, asseyez-vous. Il nous a appelés. J'envoie des gens pour les cueillir. Il faut qu'on sache. Ça, c'est ce qu'on veut. Il faut qu'il y ait ce changement de comportement, de mentalité pour que nous réussissions un peu ce que nous devons faire.
Et alors, après cette attaque, on ne constate pas dans la ville la présence de dispositifs particuliers, à moins qu'ils ne soient discrets. Et comment comprendre cela, monsieur le directeur régional?
Non, là, ça, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce que nous avons voulu éviter la psychose aussi. C'est surtout ça. Les gens ne comprennent pas. Sinon, il y avait des dispositifs partout. Moi, il y a toute une compagnie de l'armée qui est à ma disposition. Mais ils ne savent pas où se trouve. La gendarmerie est prête, la garde est prête. Nous avons assez d'effectifs au niveau de la commissariat, au niveau de la brigade territoriale, au niveau de la garde, et puis au niveau de l'armée pour quand même circonscrire tout cas d'attaque qui pourrait vraiment se... Sinon, il y avait des gens dans la rue, mais les gens ne le savent pas. C'est un dispositif très discret qui sont mis un peu partout.
Nous demandons maintenant à M. Corneau, Ousmane Corneau, qui est spécialiste en sécurité du Sahel, pour être efficace en pareille circonstance, mieux vaut être discret?
Oui, il faut être discret, mais il faut être aussi perspicace. Parce que je n'ai pas apprécié jusqu'à la hauteur et le dispositif. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, même dans les pays, et je vais dans les hôtels. J'arrive dans un hôtel, je passe la nuit sans qu'on me demande mes pièces. Ça veut dire que...
Ici au Mali, vous dites.
Au Mali. Mm-hmm. Ça veut dire que quelqu'un aurait pu venir séjourner dans la salle et puis faire ce qu'il veut et partir. Même la semaine dernière, je suis venu de Mopti. J'ai dormi dans un hôtel. On ne m'a pas demandé mes pièces. On m'a demandé comment tu t'appelles. Le nom que j'ai donné, ils se sont limités à ce nom-là et ils ont fait la facture à ce nom. Qu'est-ce qui prouve que je m'appelle? C'est mon nom. Moi, je crois qu'on doit mettre à contribution tout ce qui peut contribuer à découvrir les malfrats. À la limite, nos anciennes habitudes de Djatiga, là, il faut qu'on mette un peu de bémol là-dedans. Si tu ne connais pas quelqu'un, méfie-toi de la personne. Si tu vois un geste qui est incompréhensible, informe-toi qui est celui-là
D'où vient-il? Comment il s'appelle? Mais comme je dis, mais quand je prends l'exemple du Tchadien, quand tu rentres dans une famille, la famille va annoncer l'arrivée de l'étranger à la police. Ça c'est pas l'hôtel. Hein. L'hôtel, là, tu remplis la fiche avec ta pièce à l'appui. Mais quand tu arrives chez quelqu'un pour loger, il va t'annoncer, si tu es un étranger, tu dis, bon, je vais loger ici, tout, il va t'annoncer à la police.
Au Burkina, c'est la même chose.
Vous voyez bien. Mais ici, on dit le Djatiga. L'étranger vient et s'assoit, vous êtes en train de prendre du thé, vous ne le connaissez même pas, il vient s'asseoir à côté de lui, que M. Gaté donne le droit. On le laisse assis. Il faut que nous changeons nos habitudes. L'heure est très grave. Ils sont capables de tout faire. On fait des mariages, des cortèges. Je viens, je trouve sous une tente 200 personnes en train de danser et chanter. J'ai des pauvres cadavres. C'est comme ça que parce que j'ai vécu des cas. J'ai dit, pauvre cadavre, il faut que nous changeons nos habitudes, qu'on aide la police, qu'on aide les forces armées et de sécurité. Tant qu'on ne les aide pas, et je crois, plus on avance dans les négociations, plus ces gens-là, ils vont essayer de créer des obstacles. Donc, il faut qu'on s'y mette.
Alors, une question aux journalistes sur l'affaire Sinaba. Dites-nous, sans dispositif de sécurité remarquable, est-ce que les propos rassurants des autorités peuvent-ils véritablement rassurer?
Je ne sais pas. Je pense qu'à ce stade actuel, nos forces de sécurité seront beaucoup plus performantes, beaucoup plus perspicaces dans la discrétion que lorsque elles sont exposées. C'est l'analyse que je fais et c'est là aussi va dans l'intérêt des populations. Parce qu'en mettant tout ce dispositif par-ci, par-là, ça pour quelque part qu'on cède à la peur, qu'on cède à la panique. Et là, c'est pour faire vraiment la part belle aux touristes, ce qu'ils cherchent en fait. Donc on prouve que nous sommes au-dessus de ceux-là qui veulent faire. Donc qu'on se montre encore beaucoup plus confiant.
Il y a un problème de la protection des ressortissants des pays étrangers, notamment celle des pays occidentaux. C'est un problème qui se pose, monsieur le directeur régional?
Non, nous on ne fait pas de distinguo entre les occidentaux. Tous les pays sont logés à la même enseigne. Il y a des services de garde au niveau de toutes les ambassades. Il y a des personnalités. Ça dépend du statut de tout un chacun. Chacun est géré selon son statut. Mais ceux qui viennent, par exemple, pour les sociétés privées, généralement, c'est les gens qui optent généralement pour les sociétés de gardiennage. Et ces sociétés de gardiennage sont généralement en contact direct avec mes commissariats et les commandants de brigade. On leur dit chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est eux qui donnent. Et malheureusement, ces services aussi ne collaborent pas. C'est-à-dire que je vous dis que, comme les autres l'ont dit, cette collaboration est indispensable. Sans ça, vraiment, ce sera difficile. Et comme M. Kono l'a dit, on n'est pas encore au bout du tunnel. On n'est pas encore au bout du tunnel. Nous pensons quand même qu'il faut que, s'ils veulent endiguer ce phénomène, il faut notamment qu'ils apportent leur contribution. Et par la simple dénonciation, ça suffit.
Il y a les populations qui doivent apporter leurs contributions, mais est-ce qu'il ne faudra pas plus de collaboration entre les forces armées maliennes, la MINUSMA et par exemple Barkhane?
Cette collaboration existe. La MINUSMA procède à la formation des forces de sécurité. La force Barkhane, c'est la même chose. Entre nous, nous avons la chance que la gendarmerie, la police et la gare sont gérées par le même département. Donc ça, c'est plus simple. L'armée, maintenant, il suffit sur l'instruction du département, ils ont été mis en disposition maintenant parce que nous sommes à un niveau rouge maintenant. Il faut vraiment que les gens le comprennent. Il faut vraiment que les gens comprennent que c'est le niveau vraiment le plus élevé de l'insécurité. Donc il faut que tout le monde contribue, que tout le monde le comprenne. Le fait que les forces de sécurité ne soient pas dans la rue, c'est pas parce que les forces de sécurité n'existent pas, ou bien c'est pas parce qu'on n'en fait pas un problème. Tout simplement, c'est pour mieux la sécuriser. Il ne faut pas qu'on cède à la panique. C'est ce que les gens cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Et les autorités veulent éviter ça aussi. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans la rue.
Alors, la suite de ce débat après une courte pause.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, pour ceux qui viennent de nous capter, je rappelle que nous parlons de sécurité. La sécurité à Bamako, c'est suite au grave événement que la capitale a vécu. C'était le vendredi. Et pour parler de tout cela, nous sommes avec trois personnes ici. Ousmane Corneo, qui est spécialiste en sécurité du Sahel. Lafia Sinaba, journaliste. Et Moussa Camara, qui est directeur régional de la police. À présent, dit la France et le Mali, je crois, après ce qui est arrivé, envisagent des mesures communes. Est-ce qu'on peut avoir une idée dans quel délai cela va s'organiser? Je crois qu'on va demander encore au directeur régional de la police.
Là, ça, c'est au-dessus de moi. Je peux pas. Ça, je ne peux pas le savoir.
Alors, vous, monsieur Corneo, Ousmane Corneo, vous trouvez quand même que c'est une initiative qui vient au bon moment, non?
Oui, c'est une initiative, comme j'ai dit, que mieux vaut tard que jamais. Le problème de sécurité, ce n'est pas seulement la sécurité des Maliens, c'est la sécurité aussi de toutes les populations étrangères qui sont sur nos sols. Et la collaboration doit être une collaboration totale. On a eu la malchance, Dieu eu paix pour leur âme. Ceux qui sont morts, un Belge et un Français, ça aurait pu être un Américain ou un autre. Tout le monde fréquente ces bars-là. Et je crois que la sécurité qui doit être garantie pour les Maliens ici doit être autant pour tous les étrangers. Et tous les autres pays, pas seulement la France, tous les autres pays doivent y collaborer. Peut-être que Barkhane, qui est aussi la présidente de la France dans la sous-région, est beaucoup plus du nord. Peut-être qu'elle verra beaucoup plus aussi dans la capitale. Parce que c'est vrai qu'ils sont très peu présents à Bamako. Ils se disaient pour sécuriser le Sahel. Aujourd'hui, ils comprennent que ce n'est pas seulement le Sahel qui est en danger, c'est aussi les autres. Mais aussi, ce qu'il faut dire, l'aménagement. En réalité, l'aménagement n'a même pas, je vous dis, l'aménagement n'a même pas les moyens d'assurer sa propre sécurité. On est en train de les tirer dessus à Kidal. Si on arrive à harceler l'aménagement à Kidal, en plein désert, qu'est-ce qu'ils pourront faire pour le Bamako, où la population est dense? Ils n'arrivent même pas à assurer leur sécurité. Dans leur dispositif, ils n'ont pas prévu leur sécurité. Ils ont prévu que leur sécurité soit assurée par Serval avant, puis Barkhane aujourd'hui. Et qui fait qu'en changeant leur mandat, ils ont modifié quelque peu leur mandat pour avoir les moyens et aussi d'assurer leur sécurité afin de faire la stabilisation. Qui fait que je crois que maintenant que les événements ont commencé, tout le monde va revoir un peu son dispositif. La France viendra beaucoup plus à Bamako, beaucoup plus dans les villes. Parce que leur mode d'action, ce n'est pas de taper toujours à Bamako. Bamako n'est pas la seule ville. Ce n'est pas seulement à Bamako qu'il y a des Maliens. Aujourd'hui, ils tapent à Bamako, demain, ils vont aller taper à Kaye, après ceci. Donc, ça veut dire que le dispositif qu'on prend à Bamako, on doit le prendre dans toutes les grandes villes, c'est bien, pour que partout où se trouvent les Maliens, partout où se trouve l'expatrié, ils puissent avoir sa sécurité assurée. Et là, il faut que tout le monde y contribue.
Alors, juste après l'attentat terroriste de vendredi, il y a eu beaucoup de réactions des plus hautes autorités. Il y a eu celle du ministre de la Communication, le ministre de la Communication, Choguel Lokokalamaya, que nous allons d'ailleurs écouter.
La panique ne gagnera pas le rang des Maliens. Il est évident que chaque fois que les négociations rentrent dans une phase cruciale, on doit aboutir à une solution. En général, les ennemis de la paix, quels que soient les coins où ils sont tapis, sortent pour travailler à saboter l'accord. Et c'est pour cela que nous devons garder notre sérénité, garder le cap pour que rien ne dévie le gouvernement et le peuple malien de la recherche obstinée d'un accord de paix. Parce qu'en vérité, tant qu'une partie de nos frères n'adhérons pas à l'accord, tout ce qui se passera pourra être interprété. Certains diront que ce sont eux. Chaque pays a sa façon d'agir. J'ai entendu certains dire qu'ils ne voient pas les forces maliennes dans les rues de Bamako, ils ne sentent pas que les forces de sécurité sont mobilisées. Que je sache, les autorités de notre pays sont déterminées à assurer autant que faire se peut la sécurité des citoyens et de leurs biens. Et donc je ne souhaiterais pas commenter les mesures que chaque pays prend pour assurer la sécurité de ses citoyens.
Alors, nous allons demander donc au journaliste qui est là, Lafia Sinaba, qu'il nous commente un peu ce discours, cette déclaration du ministre.
D'abord, ce que je disais tantôt, ça prouve, quelque part c'est rassurant. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, nous sommes mis au-dessus de la peur. Nous avons tempté en quelque sorte. C'est cela le plus important d'abord. Parce qu'une fois qu'on est marqué par cette situation, vous allez voir, chacun restera cloîtré chez lui. Et là, ça va créer une autre situation de panique, ce qui n'est pas bon. Il ne faudrait pas que la terreur ait le dessus sur nous. Donc, je pense bien que le message du ministre est le bienvenu. C'est un message rassurant. Et c'est ce qu'on attend de nos autorités.
On va se demander, on se pose la question, vous aussi on vous la pose, les terroristes, est-ce qu'ils ne veulent pas, à travers ce genre d'agissement, démontrer qu'ils obtiennent le terrain? Cornio, monsieur Cornio.
Et oui, moi je crois que c'est la énième fois que je le dis sur cette antenne, qu'en fait, que ceux avec qui nous négocions à Alger ne sont pas les tenants du terrain. La vraie recherche de la paix viendra après la signature. Parce que c'est après la signature que les gens vont être démasqués. Certains se disent HIA ou MNLA, en réalité, c'est des terroristes. Et quand on va signer l'accord et que les attaques continueront, c'est des deux lunes. Ou bien ils ont signé l'accord et ils continuent à mener des actes, ou bien ils ne le sont pas. Et l'accord devait permettre à ce que et le gouvernement malien et tous les signataires se tournent vers l'ennemi commun qui serait les terroristes. Et qui font que moi, j'attendais que la signature de l'accord y ait pour qu'en fait, qu'on puisse savoir qui est terroriste et qui ne l'est pas. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai le doute entre HIA, MNLA, terroriste et tout le monde. Mais la signature de l'accord nous permettra au moins de savoir ceux qui ont signé, ils vont se tourner contre ceux qui assurent l'insécurité dans le pays.
À mon avis, comme il l'a dit, il faut voir en ces attaques une interpellation des groupes armés qui n'ont pas encore paraphé le document. Parce qu'une fois que le document est paraphé, on saura qui est pour la paix et qui ne l'est pas. Et là, il sera plus facile d'abattre le terme, mais c'est comme ça. Donc, je pense que le mouvement National Libération de l'Azawad et ses alliés doivent voir en ces attaques une interpellation à leur égard.
Alors, il y a la coordination des groupes armés qui doit se réunir demain. Mmh. On ne saurait savoir ce qu'elle va décider. Et si elle décidait, par exemple, de se retirer du processus, parce que là, on ne sait pas ce qui peut sortir de cette rencontre demain. Et pour vous, ça peut jouer sur la suite des choses, des événements. Je pose, je crois, la question au directeur régional de la police.
C'est politique. Je préfère ne pas me prononcer par rapport à ça.
Alors, on s'y attendait. Donc, maintenant, je crois que Ousmane Cornéo, lui, au moins, il peut quand même se prononcer sur cette question.
Non, moi, je suis sûr qu'ils vont signer, ils vont paraffer. Ils vont paraffer parce que quand vous voyez le cours de la négociation, mais il faut reconnaître qu'ils ont besoin d'hésiter. Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont prêts à signer, mais il y a d'autres pour eux qui, quand ils signent, là, c'est leur affaire. Parce que c'est un problème économique. Ils sont tenus par d'autres engagements avec les terroristes. Parce que depuis qu'ils ont commencé là, ils vivent. Qui les fait vivre? Hein? Ils circulent. Qui les donne du carburant? Ils ont des véhicules. Qui les donne les véhicules? Ils sont tenus par d'autres accords ailleurs. Donc, pour qu'ils signent, il faut qu'ils puissent se désengager de ces autres accords. Donc c'est cette hésitation qui les fait encore attendre pour qu'ils puissent négocier de l'autre côté leur désengagement en fait de s'engager. Et c'est sûr qu'il y a certains qui vont s'engager, mais d'autres ne s'engageront pas. Ce sont ceux qui ne vont pas s'engager, qui vont lier, qui vont continuer avec les narcotrafiquants, les djihadistes, et ce sont ceux qui sont les ennemis communs. Donc aujourd'hui, la lutte qu'ils ont entre eux, c'est une lutte interne d'intérêt. L'intérêt qu'ils ont, ceux qui les font vivre, ceux qui les donnent, toujours avec qui ils ont des engagements, maintenant, auxquels il faut se désengager pour s'engager pour la paix au Mali. En s'engageant pour la paix au Mali, ça veut dire qu'ils s'engagent contre les autres. Donc, c'est cette négociation. Moi, je suis sûr et certain qu'ils vont paraffer. Parce que la pression est très forte.
L'affaire Sinaba.
Oh, il faudrait que ça aille vite en ce moment. Je suis très content de son optimisme. Parce que j'ai dit cela, je me rappelle lorsqu'on venait d'Alger, lors du quatrième round, fin novembre, le ministre Zahabi l'a dit, on est pour la paix, on est contre la paix. Maintenant, ceux qui refusent de signer, c'est qui veut dire qu'ils ne sont pas pour la paix. Et quand on n'est pas pour la paix, on doit être abattu. Je pense que nous sommes à ce stade-là, c'est cruel, mais il faut le dire comme ça. Parce que tant qu'on continuera comme ça, de cette situation de ni paix, ni guerre, par fini, on a beau tenir, la puisque ça va gagner les gens. Donc il faut vraiment aller vite.
Donc vous estimez que si la coordination des groupes armés signait, cela devrait peut-être permettre un certain apaisement de situation?
Ah oui, ça permettra un apaisement. D'abord, ça prouve que l'ensemble des parties prenantes sont pour le Mali, sont pour la stabilité du Mali. Maintenant, il serait plus facile en ce moment d'abattre les forces ennemies. Mais du moment où il y a cette situation floue, parce qu'à présent, on se pose la question, le président même a eu le courage de le dire, même si c'est fait à mon avis un peu tardivement, aujourd'hui il y a l'image, l'ombre de Nuit Iyad est là toujours. Donc, il faudrait qu'on sache qui est qui tire les ficelles, qui est pour la paix, qui ne l'est pas. Maintenant nous sommes, la communauté internationale vraiment a ouvert la voie. Nous devons aller vers la paix, toutes les opportunités sont là. Maintenant, quand on ne signe pas, ça veut dire quelque part qu'on n'est pas pour la paix. Surtout que ce qui est offert quelque part, il faut le dire, ça va au détriment de certaines dispositions de la constitution malienne. Mais malgré tout, les autorités ont fait un sacrifice parce que tout simplement, elles estiment que l'essentiel est préservé. Malgré la préservation de cet essentiel-là, il faut reconnaître qu'il y a des situations qui constituent des véritables défis. Malgré tout, il y a des efforts qui ont été faits de la part des autorités, de la part de certains groupes armés. Donc, à mon avis, il appartient aujourd'hui à la coordination de s'assumer, de sortir de cette situation.
Ousmane Kornio.
Oui, je crois que c'est la même chose que j'ai dit aussi. Il faut signer. Tout le monde ne va pas signer. De toute façon, les signataires, c'est 3 ou 4 personnes. Les certaines personnes vont signer. Ceux qui seront d'accord vont signer. Et ceux qui ne signeront pas vont aller dans la dissidence. Ça veut dire qu'on saura alors qui ils sont.
Je crois que nous allons permettre au directeur régional de la police, Moussa Camara, d'avoir le dernier mot lui, qui n'aime pas se prononcer sur les sujets à caractère un peu politique.
Bon, là, je suis vraiment très content de cette émission. En fait, mon souhait, c'est que la population comprenne qu'il n'y aura jamais de sécurité sans leur collaboration. Que la population comprenne que c'est pas parce que les éléments de force de sécurité ne sont pas dans la rue, qu'elle ne veille pas sur elle. Que la population comprenne que l'État a mis tous les moyens à notre disposition, a mis assez de moyens à notre disposition pour veiller à notre sécurité. C'est un droit constitutionnel. Voilà. Donc vraiment, je compte sur eux, je compte sur la population pour quand même qu'on puisse quand même dépasser ce stade. Parce que c'est un moment difficile, ça fait partie de l'histoire de tous les pays, leur histoire. Ça fera partie de l'histoire de ce pays. Donc qu'on arrive vraiment à surpasser ce truc-là, ça fera une bonne chose. Je compte sur eux quand même.
La population doit donc soutenir, mais elle doit être aussi vigilante, n'est-ce pas?
Très vigilante. Très, très, très vigilante, parce que là, le cas de Samanko prouve à suffisance que soit ils sont vigilants, soit ils sont complices. C'est une complicité tacite. Bon. Parce que c'est contre notre culture. Il faut qu'on se démasque un peu de ça. Il y a certaines valeurs traditionnelles qui ne se cadrent pas avec la... Il faut qu'on dépasse ça. On dit que quand on dénonce quelqu'un, c'est pas africain, tu n'es pas malien, tu n'es pas digne. C'est faux. C'est faux. Il faut qu'on dépasse ce stade-là. Le
contexte a changé.
Voilà. Il faut que ça change.
Est-ce qu'il y a d'autres attitudes qu'il faut peut-être essayer de changer aussi? Bon. Pour ne pas peut-être trop s'exposer pour...
Là, il y a le numéro vert. On a communiqué le numéro vert à tout le monde. Ça, c'est le plus grand anonymat. Tu téléphones, il y a des gens qui téléphonent chaque fois, qui disent, mais le coup de feu, le premier coup, le signal de l'autre jour, c'est un type anonyme qui a annoncé ça à la salle de trafic, qui m'a appelé. Le piqué même qui était sur le terrain ne savait pas. C'est après ça qu'on les a appelés. Donc, c'est vraiment, il y a le numéro vert qui fonctionne très bien. Voilà.
Voilà, c'est sûr. Donc, cet appel du directeur régional de la police, Moussa Camara, qui prend fin le grand dialogue de ce lundi 9 mars 2015. Je vous rappelle que c'est de la sécurité à Bamako que nous avons parlé. C'est suite à un événement grave, l'attaque terroriste du vendredi qui a fait des morts et des blessés. Nous en avons donc parlé avec trois personnes. Ousmane Kornio, qui est spécialiste en sécurité du Sahel, la fiancée Naba, journaliste, et Moussa Camara, qui est directeur régional de la police. Cette émission vous a été présentée par Seydou Fomba. À la mise en onde, il y avait Mamadou Ouattara, régie vidéo, monsieur Djiré, et à la réalisation, Ousmane Djadje Touré. On se donne donc rendez-vous demain.
Grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.